Bonjour Marc, Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. On parle avec vous de ce fantasme des milliards d'euros de pensions versées à des retraités en Algérie, une idée souvent portée hein, par les extrêmes. Alors ce ne serait pas des milliards d'euros hein, dont il s'agit, vous avez enquêté, mais plutôt quelques dizaines de millions tout au plus, Marc.
Oui, en fait, il y avait ce soupçon qu'il y avait des retraités en Algérie, des retraités qui avaient travaillé en France et qui seraient rentrés chez eux en Algérie, qui toucheraient des pensions françaises, mais frauduleusement, parce qu'il y avait un soupçon de fraude à l'identité, c'est-à-dire après le décès, la famille continue à toucher la pension à la place de la personne qui a légitimement droit à cette pension. Et vous savez que depuis plusieurs années, il y a une grosse pression de l'opinion et puis de certaines personnes qui se disent experts et qui y croient qu'il y a une fraude massive à l'identité sur tous nos systèmes sociaux. Les organismes sociaux se sont bougés un peu pour vérifier cette assertion et en tout cas dégonfler un peu le mythe. Et donc, ils ont fait des enquêtes. Et c'est le cas de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, notamment sur les retraités en Algérie, puisqu'il y avait cette allégation. Et donc, ils sont allés regarder, il y avait ce fantasme qu'il y avait des gens, des centenaires, beaucoup de centenaires en Algérie, et qu'ils touchaient des pensions françaises frauduleusement. Et donc, ils sont allés regarder. En fait, ils avaient à peu près moins de 1 000 pensionnés centenaires en Algérie. Et ils ont donc convoqué tous ces retraités. Ils sont même allés jusqu'au plus de 95 ans. Et ils ont convoqué 2 000 personnes, ils ont vérifié leur identité. Et sur ces 2 000 personnes, en fait, il y a effectivement 400 personnes qui ne sont pas venues, qui n'ont pas répondu à la demande des autorités françaises. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils étaient automatiquement fraudeurs, hein, parce que c'est des personnes très âgées, potentiellement. Et il y a moins de 400 personnes qui ne sont pas venues, qui n'ont pas prouvé leur identité. Et donc, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a arrêté de verser les pensions. Mais en fait, c'était des très petites pensions, parce que c'était souvent des carrières très peu complètes, etc. Et c'était des sommes qui sont dérisoires par rapport aux allégations qu'il y avait. Et donc, en fait, cette fraude massive aux identités, n'est pas du tout avérée.
Alors, quels sont les outils dont dispose l'administration pour vérifier l'identité? Là, ils ont fait vraiment des contrôles très spéciaux, mais pour les généraliser.
Alors déjà en Algérie, ils vont faire des contrôles un peu plus poussés, ils vont descendre jusqu'au plus de 90 ans, donc pour vérifier tous les 4 ans que la personne est toujours bien en vie et que c'est pas sa famille qui profite de la pension après un décès non déclaré. Parce qu'il faut savoir que la CNAV en Algérie, elle n'a pas accès au registre d'état civil avec tous les décès, contrairement à ce qui se fait avec de plus en plus de pays européens où il y a beaucoup de pensionnés français ou beaucoup de pensionnés qui étaient en France à un moment. Et donc, dans ces pays européens, il y aura un échange automatique avec l'état civil. C'est déjà le cas avec beaucoup de pays. Donc ça, c'est un premier outil, avoir accès à l'état civil et savoir en direct qui est décédé et qui ne l'est pas. Donc là, on parle bien pour les pensions de retraite. Hein, on parle bien de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Cette Caisse nationale d'assurance vieillesse a aussi, sous la pression de l'État, de la Cour des comptes, de Gabriel Attal, qu'on a fait un sujet politiquement fort pour essayer de montrer à cet électorat, à un électorat qui est très sensible à la fraude sociale, qu'il faisait ce qu'il y avait à faire. La CNAV a embauché des personnes juste pour évaluer le chiffre de fraude sociale dans sa branche. Donc, vous savez que pour faire une évaluation, il ne faut pas viser les dossiers qui sont le plus à risque de fraude, hein, parce que sinon, on surévalue la fraude. Il faut faire des contrôles aléatoires. Donc, chaque année, la Caisse nationale d'assurance vieillesse tire au sort désormais, grâce à une équipe de 12 personnes, des dossiers. Et puis, elle fait son enquête, elle regarde s'il y a eu de la fraude. Et qu'est-ce qu'elle a découvert? Elle a découvert qu'il y a un taux de fraude de 0,3%, qui varie un peu selon les années. Et ça représente de 40 à 80 millions d'euros. Alors, c'est sur des centaines de milliards de pensions versées. Donc, vous voyez que la fraude, elle existe. Il faut lutter contre, mais ce n'est pas un phénomène ultra massif. Et puis par ailleurs, bah, cette Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le coup, elle augmente ses effectifs à la demande de l'État pour lutter contre les dossiers frauduleux. Elle utilise des algorithmes qui vont viser bah, les personnes les plus âgées, donc à risque d'être décédées et qui n'auraient pas déclaré, dont la famille n'aurait pas déclaré le décès, et celles qui touchent des pensions importantes où il y a potentiellement beaucoup d'argent à frauder. Et elle, grâce à cet algorithme, elle vise ces personnes et elle fait des enquêtes poussées pour vérifier qu'il n'y a pas eu de fraude. Et donc, elle augmente ses effectifs dédiés à la lutte contre la fraude. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse explique par exemple que dans 3 ou 4 cas par an, ils vont au pénal quand c'est des cas de fraude très importantes. Et il a cité, l'anecdote était assez amusante, je trouve, le cas d'une famille qui n'aurait pas déclaré le décès de la personne qui touche une pension et qui l'a enterré dans le jardin. C'est un peu, voilà. C'est pas si c'est un cas réel, mais en fait, ça peut être ça, ce genre de fraude, où on va carrément au pénal pour récupérer de l'argent quand c'est vraiment une fraude organisée et importante sur des montants de pension importants.
Oui, donc il y a vraiment une systématisation. En tout cas, ça reste aussi des contrôles effectués, là, vous l'avez dit, dans le cas de l'Algérie, sur les plus de 95 ans. Là, le but, c'est aussi d'accélérer peut-être la cadence. Il va y avoir aussi la reconnaissance du visage c'est ce que permet le numérique aujourd'hui. Hein.
Oui, alors il n'y a pas qu'en Algérie. En fait, la CNAV, pour bien vérifier que les personnes sont vivantes dans les pays où elle n'a pas accès au registre d'état civil, où elle n'a pas les échanges automatiques d'informations, elle va demander aux personnes volontaires qui ont un portable à peu près récent et qui ont une puce de se filmer, comme un peu pour l'identité numérique de la poste, de se filmer et de comparer ce résultat lié à la caméra à la carte d'identité biométrique. Et donc, elle va pouvoir vérifier que c'est bien la personne qui déclare toucher la pension qui est bien réelle, qui est bien là, qui n'est pas décédée. Et donc, ça permettra pour tous ceux qui acceptent de le faire, parce qu'elle ne pourra pas forcer les gens à le faire, bah, d'éliminer un soupçon de fraude et donc de ne se concentrer que sur les cas où il y a effectivement où cette identité ne peut pas être confirmée. Donc là, on peut cibler davantage les contrôles. Donc, vous voyez que les moyens de lutte contre la fraude se déploient et donc la CNAV espère que 80% de ces pensionnés, elle aura soit par les registres d'état civil, soit par ce contrôle via des smartphones. Comme je vous dis, 80% des personnes pensionnées qui seront bien vérifiées, dont on sera sûr qu'elles sont vivantes, et puis pour le reste, bah, ça sera des contrôles.
Et si ce n'est là que se trouve la fraude, alors où est-ce que on peut aller à trouver de l'argent, donc de la fraude sociale, Marc? C'est une vaste question, évidemment.
Alors, la fraude sociale, déjà, il faut arrêter les fantasmes. C'est pas du tout 50 milliards. C'est pas ça qui permettra de réduire de manière très importante le déficit public, qui, je rappelle, est aux alentours de 173 milliards d'euros, en tout cas le déficit de l'État. Donc, 50 milliards d'euros, faut oublier. Les meilleures estimations de la Cour, qui a donné pour la première fois, de la Cour des comptes, pardon, qui a donné pour la première fois un chiffre officiel, c'est entre 6 et 8 milliards d'euros par an. Et si on rajoute, non pas de la fraude, mais des erreurs, fautives des contribuables, parce que vous savez que la frontière entre la fraude et l'intention de frauder et les erreurs, au détriment de l'administration, eh ben, c'est une frontière un tout petit peu floue. Donc il faut prouver qu'il y a une intention de fraude. Bref, si on rajoute ces erreurs fautives, ça va jusqu'à 15 milliards. Mais évidemment, on ne récupérera jamais l'intégralité de ces 15 milliards. Et donc, en plus, quand vous mettez des moyens de lutte contre la fraude, hein, ça coûte de l'argent. Par exemple, la Caisse nationale d'assurance vieillesse chiffre à 1 million d'euros, excusez-moi, 1 million d'euros par an, l'équipe de 12 personnes qui est chargée rien que d'établir le chiffre en sélectionnant des dossiers au hasard. Donc, vous voyez, ça coûte un peu d'argent. Il faut le faire, c'est très important pour montrer que le système n'est pas fraudé massivement. Il faut sanctionner la fraude. Ça coûte de l'argent et donc ces évaluations, c'est entre 6 et 8 milliards de fraude sociale. Et d'où ça vient? Bah, on sait que par exemple, dans la branche santé, Contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de fraudes qui viennent des professionnels de santé eux-mêmes. Alors on peut dire c'est parce qu'ils sont pas assez rémunérés, etc. Mais par exemple, il y a des cas dans des EHPAD de médecins qui vont les cartes des personnes âgées, comme elles sont pas toujours très réactives, on les a tout le temps à disposition dans un coffre-fort. Il y a des médecins, on s'est rendu compte, qui prenaient toutes les cartes et qui passaient des actes à des gens qui ne voyaient même pas. Et la personne se retrouvait avec des décomptes de remboursement. On se disait, mais je n'ai pas vu de médecin. Et donc, bon, voilà, il y a des infirmiers libéraux qui surfacturent, il y a des centres ophtalmologiques qui se sont organisés pour frauder et qui ont été fermés. Voilà, donc, mais en revanche, pendant des années, il y a des gens qui vous expliquaient qu'il y avait des cartes vitales en circulation, en excédent. Et c'est vrai que pendant des années, la Caisse nationale d'assurance maladie, oui, n'avait pas trop d'explications pour expliquer pour dire pourquoi il y avait autant de cartes vitales en plus par rapport au nombre d'assurés sociaux qui est bien réel. Et donc, il y avait un soupçon de fraude massive. Eh bien, la Caisse nationale d'assurance maladie a été obligée de passer en revue toutes ces cartes vitales et se sont rendu compte qu'il y avait un tout petit peu de fraude. Il y avait des gens qui n'avaient plus le droit à l'assurance maladie, qui revenaient se faire soigner en France. D'ailleurs, pas toujours l'image qu'on a du Maghrébin qui viendrait se faire soigner en France, mais parfois du cadre qui vit aux États-Unis, qui n'a plus le droit à l'assurance maladie, qui a gardé ses cartes vitales, qui revient se faire soigner en France parce que la santé est très chère aux États-Unis. Et en fait, il y avait plein de cartes vitales en excès dans les tiroirs, etc., qu'une famille gardait, qu'elle n'utilisait plus parce qu'elle avait des droits ouverts à l'assurance maladie de toute façon pour chaque personne, puisque c'est un droit, c'est même plus attaché à des cotisations et au travail. Donc voilà, tout le monde a des droits ouverts à l'assurance maladie, donc ces cartes vitales ne servaient à rien. Et en fait, toutes ces cartes vitales en excès, en surnombre, n'ont servi strictement pas du tout à faire de la fraude massive. Il y a eu quelques cas, évidemment. Il fallait faire ces vérifications, mais maintenant le sujet est totalement dégonflé et l'administration va faire ses contrôles régulièrement. Voilà.
Et on retiendra d'ailleurs cette idée, hein, du Premier ministre de fusionner carte vitale et carte d'identité. Merci beaucoup.
Oui, alors ça, c'est une idée que le Premier ministre a mis sur la table parce que c'est très demandé, mais on n'est pas sûr que ça a un intérêt et que ça va pas coûter plus cher que ce que ça va rapporter.
Oui, toujours évaluer le rapport coût-bénéfice, bien sûr. Merci beaucoup, Marc Vigneault, journaliste à
Merci à vous.
l'Opinion.